Sécurité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. À la veille des départs en vacances, nous nous penchons sur les pathologies liées au voyage et aux moyens de les prévenir. Retourner dans son pays d'origine ne signifie pas que l'on est immunisé contre les maladies tropicales. Parmi les pathologies les plus fréquentes, on trouve les diarrhées, les affections des voies aériennes, les dermatoses, c'est-à-dire les problèmes de peau et la fièvre. Si on prend l'exemple du paludisme, en France métropolitaine, cette maladie est en recrudescence avec à peu près 4300 cas recensés, 11 décès. Il s'agit bien sûr de paludisme d'importation, c'est-à-dire en fait contracté lors d'un voyage à l'étranger. Alors quels sont les vaccins pour quelle destination? Comment prévenir le paludisme? Sur place, quelles sont les précautions à prendre? Pourquoi est-ce important d'ailleurs de consulter un médecin avant de partir, mais aussi à son retour? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le professeur Sophie Matron, qui est responsable du Centre international de vaccination et de conseil aux voyageurs de l'hôpital Bichat-Claude Bernard. Si vous avez envie de lui poser des questions ou d'apporter un témoignage, appelez-nous au 33 1 84 20 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Massamba Sassoun Diop, qui est médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal. Et en fin d'émission, comme tous les lundis, on retrouvera la chronique nutrition de Stéphane Besançon. Professeur Sophie Matron, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Priorité Santé pour nous donner des bons conseils avant de partir en vacances. D'abord, les voyageurs sont-ils souvent victimes de problèmes de santé ?
Les chiffres sont assez variables selon les études. Ça varie entre 15 et 70%. Mais ce qui est certain, c'est
qu'il est quand même relativement fréquent.
C'est relativement fréquent. Ça peut être bénin. Et ça peut être très grave.
Voilà. Et quelles sont les maladies les plus fréquentes? J'en ai cité quelques-unes, c'est effectivement ça.
Vous avez cité la diarrhée, qui est quand même le problème le plus fréquent, la diarrhée tourista. Du voyageur, la tourista, mais qui est quelquefois pas la tourista, donc il faut chercher parfois les causes. Et il y a les maladies respiratoires, et il y a un certain nombre de maladies qui pourraient être prévenues aussi, comme le paludisme. Et puis, il y a des maladies cardiovasculaires. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup d'accidents de la voie publique. Hein. C'est une cause fréquente de soucis.
Accidents de voiture, entre autres. Voilà. On y reviendra d'ailleurs. Le nombre de cas de paludisme en France est-il justement en augmentation? C'est quelque chose d'un peu inquiétant.
Non, je ne crois pas que ce soit en augmentation. C'est assez stable depuis 2000. C'est environ 4000 cas par an. On le sait par extrapolation avec les données qui sont colligées par le Centre national de référence du paludisme. Ça a un peu diminué depuis 2000 et c'est stable. Le nombre de cas graves et de décès est assez stable aussi.
Pourquoi est-ce important d'aller voir un médecin avant de partir, entre autres, en zone tropicale? Puis je dirais aussi, quel médecin? Est-ce que c'est son médecin généraliste ou c'est un ou une spécialiste comme vous?
Alors, c'est important vraiment de consulter avant de partir. D'abord pour mettre à jour le calendrier vaccinal habituel qui devrait être à jour. C'est important aussi pour pouvoir avoir des conseils de prévention des différentes maladies que j'ai citées, pour avoir des vaccinations spécifiques à chaque destination, pour avoir aussi une prévention du paludisme quand c'est indiqué. Et c'est important de le faire en consultation médicale parce que ce qu'on va prescrire ou ce qu'on va conseiller dépend de chaque patient, ses antécédents, s'il a une autre maladie, si c'est une femme enceinte, son âge, le lieu de destination. Ça peut tout à fait être fait par un médecin généraliste, ça c'est clair. Mais bon, il y a des centres dédiés et il y a prévention pour laquelle il faut vraiment avoir recours à un centre spécialisé, c'est la vaccination contre la fièvre jaune, puisque ça ne se fait que dans des centres agréés par l'Agence régionale de santé.
Et fièvre jaune indispensable sur le continent africain, c'est le seul continent où c'est obligatoire?
Ah non, c'est pas le seul continent où c'est obligatoire. C'est obligatoire aussi en Amérique du Sud, pas partout. Et c'est pas toute l'Afrique. Donc c'est actualisé chaque année. Même si le risque est en fait pas forcément important, c'est important pour les autorités internationales, puisqu'on peut pas passer la frontière d'un certain nombre de pays si on ne fournit pas un certificat Dans centre de vaccination agréé,
normalement, effectivement, c'est vérifié attestant, en même temps que votre passeport. Je peux quand même vous dire que ça l'est pas vraiment fait de façon systématique.
Ah, moi, je peux vous dire que c'est fait. Et quand on ne le présente pas, c'est un peu ennuyeux parce qu'on a deux solutions,
nous,
trois solutions.
On a eu pas mal d'exemples où c'est pas fait.
Alors quand c'est fait, et c'est peut-être de temps en temps aléatoire, si on ne fournit pas de certificat, il y a trois solutions. Demi-tour. Deuxième solution, c'est injection sur place à l'aéroport.
Oui.
Et troisième solution, c'est la débrouille.
Oui, c'est ça. Et voilà, on a un témoignage de Madame Fall à Dakar qui dit, quand on passe le poste frontière, au lieu de demander le carnet de santé, il demande de l'argent sans même vérifier si le carnet est à jour.
Il y a les trois solutions.
Ça arrive. Pauline Mocor s'est rendue dans votre service, professeur Matron, donc le Centre international de vaccination et de conseil aux voyageurs de l'hôpital Bichat-Claude Bernard. Elle a pu assister à une consultation avec le docteur Geneviève Moreau, qui est infectiologue et qui reçoit tous les jours sur rendez-vous. Au retour de voyage, en cas de fièvre ou autres symptômes, la consultation assure le suivi, donc c'est une consultation. Je dirais avant et après, on peut venir consulter rapidement. On écoute.
Asseyez-vous, madame. C'est pour un voyage, madame? Vous allez partir où?
Je pars en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, vous partez quand?
Je pars le 4 août.
Alors, Côte d'Ivoire, le 4 août, pour combien de temps?
Un mois, 8 jours.
Et vous serez où en Côte d'Ivoire?
Je serai particulièrement à Korongo, ma ville natale.
Alors, vous avez un carnet de vaccination?
Mon carnet qui est là. Ça, c'est celui de l'enfant.
Vous êtes né en Côte d'Ivoire?
Oui.
Êtes ici depuis quand?
Je suis là depuis 2004.
Et depuis 2004, vous êtes retournée ou pas?
Non.
Non, non. Donc, vous n'avez pas eu de vaccin. Depuis 2004, vous avez été ça comme
oui.
vaccin.
Mm-hmm.
Tétanos, tout ça, vous êtes à jour, hein,
oui.
Parce que ça a été fait en 2013. Donc, il vous faut le vaccin contre la fièvre jaune.
Oui.
Puisqu'il est obligatoire. Et puis, éventuellement, on peut aussi faire en plus le vaccin contre la typhoïde.
Oui, la typhoïde, oui.
Je vais faire d'abord le petit. Donc, il part avec vous aussi, 5
oui,
semaines.
Oui.
Alors, au niveau de ses vaccinations, donc, il est à jour.
Oui.
Il n'a pas de retard avec le vaccin. Il lui faut aussi la fièvre jaune. Alors, lui, plutôt que la typhoïde, je préfère lui faire un vaccin qui s'appelle l'hépatite A.
Il n'y a pas de vaccin contre l'Ebola?
Vous êtes dans une zone où il y en a
non,
pas.
Non, je suis dans une zone où il n'y en a pas.
Non, il n'y a pas de vaccination. Alors, on va commencer par ce bras, si vous voulez. Vous allez, tenez-le bien. Hein.
Ferme tes yeux, maman. Tu fermes tes yeux, ça passe tout d'un coup.
C'est fini, mon bébé.
C'est bien, ça.
Alors, le vaccin peut donner de la fièvre. Hein.
Mm-hmm.
Donc, ce soir, il peut avoir un peu de fièvre, mm-hmm. mais aussi dans quelques jours. Ça peut être dans 5 jours ou dans 10 jours.
Mm-hmm.
Mais pour le voyage, vous avez besoin de ce petit carnet jaune. Donc, n'oubliez pas.
Oui.
Parce qu'à Abidjan, ils vont vous le réclamer. Hein. Alors, pour le paludisme, première chose, vous avez prévu des moustiquaires là-bas?
Oui.
Il y a des moustiquaires?
Oui, j'ai prévu, oui.
D'accord. Donc, vous savez, il faut prendre des moustiquaires, ce qu'on appelle imprégnés. Mm-hmm. C'est-à-dire, sur la moustiquaire, vous avez un produit mm-hmm. pour éloigner aussi les moustiques. Hein. Et puis, il faut peut-être prévoir aussi un petit répulsif.
Oui.
Vous savez, des petites bombes comme ça. Pour les vêtements, pour le bébé.
Okay.
Donc ça, c'est des produits que vous mettez sur ses vêtements. Vous pulvérisez sur ses vêtements avant de l'habiller. Vous ne pulvérisez pas sur lui, surtout. Et, parce qu'il y aura quand même quelques piqûres moustiques, donc il y aura quand même un traitement à lui donner tous les jours. Alors, donc pour vous, c'est la même chose. Alors, le médicament n'est pas le même pour vous et pour lui. Donc, pour lui, ça va être la malarone. Et pour vous, c'est un médicament qui s'appelle la doxycycline. Alors, ça se prend tous les jours, à raison d'un comprimé par jour. Il faut le prendre au moment d'un repas. Hein, vous ne le donnez pas juste avec un petit peu d'eau, hein, il faut qu'il y ait des aliments, comme ça. Sinon, le médicament perd en efficacité. Donc, vous donnez ça au moment du repas et vous gardez toujours le même repas. C'est-à-dire, si vous donnez le matin, toujours le matin. Si vous donnez à midi, toujours à midi. Et quand vous revenez ici, en France, vous allez continuer à prendre le traitement, vous, pendant 4 semaines, un mois, et lui, pendant une semaine. Voilà.
Merci.
Pourquoi vous êtes venue ici aujourd'hui?
Je suis venue pour me faire vacciner contre les maladies tropicaux. Chez moi, particulièrement les maladies à risque, le paludisme, la fièvre typhoïde et d'autres maladies hydriques, comme la bilharziose.
Avant, vous viviez en Côte d'Ivoire?
Mm-hmm.
Est-ce que vous étiez protégée contre toutes ces maladies?
Non. Bon, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Il y a eu une épidémie du choléra où il y a eu pas mal de décès. Là, comme je vais, ça fait un moment que je suis en France ici. Bon, mon corps s'est adapté aux bactéries, aux virus, aux microbes d'ici. Donc, pour prendre mes précautions, j'ai préféré me faire vacciner.
C'est la première fois que vous retournez en Côte d'Ivoire?
Oui, c'est ma première fois depuis que je suis en France ici. Pour mon départ, vraiment, je me sens perdue parce que ça fait depuis le 14 février 2004, je suis en France. Je ne sais pas comment se trouve mon pays présentement. Donc, j'y vais comme ça avec mon fils pour passer les 5 semaines. Mais je suis très, très inquiète.
Mais du point de vue de la santé, qu'est-ce qui vous préoccupe?
Non, c'est la fièvre typhoïde et puis la fièvre jaune, qui le paludisme, les trois maladies qui ravagent la population ivoirienne pour l'instant.
Et alors, est-ce que vous allez prendre des précautions particulières au niveau de l'alimentation, de l'eau que vous allez boire?
Bien sûr. Là, je vais prendre de l'eau minéralisée. Et puis, pour le petit aussi, je vais prendre des précautions, le lavage des mains pour éviter pas mal de pathologies. Les fruits et légumes bien lavés avant de manger. Oui, même pour moi et le petit aussi.
Je vous souhaite un bon voyage.
Merci à vous.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des pathologies liées au voyage, je dirais surtout aux moyens de les prévenir. Professeur Sophie Matron, c'est comme ça que ça se passe, en fait, une consultation? On fait le tour des vaccinations et des traitements qu'il faudrait prendre, c'est ça?
Vous avez entendu une vraie consultation, donc oui, on fait le tour des vaccins à faire pour partir, mais des vaccins qui devraient être à jour.
Et puis, même si on part pas.
Même si on part pas. La chimioprophylaxie du paludisme, hein, vraiment
traitement préventif. Oui. Voilà. Alors justement, on a à ce propos Abdoulaye qui nous appelle d'Evry en banlieue parisienne et qui a une question à vous poser. Abdoulaye, bonjour.
Allô, oui, bonjour madame.
On vous écoute, Abdoulaye.
Voilà, je vous appelle parce que je pars dans 2 jours à Conakry. Et du coup, je voudrais savoir s'il y a des moyens pour prévenir le paludisme. Parce que là, j'aurai pas le temps de consulter un médecin.
Ah, ça veut dire que vous allez partir sans consultation. Notre invité fait la grimace. Je vais vous dire, c'est pas bien. Vous retournez régulièrement en Guinée-Conakry?
La dernière fois, c'était en 2010.
La dernière fois, c'était en 2010, donc il y a 5 ans. Et vous aviez entendu parler justement de l'importance de ces consultations avant le départ?
Oui, mais j'ai pas vraiment pris des renseignements là-dessus.
Vous avez pas pris le temps. Alors, la question du paludisme. La Guinée est un pays où il y a du paludisme.
La Guinée est comme beaucoup en Afrique de l'Ouest, un pays d'endémie du palu. Et en fait, c'est très bien que vous appeliez. On va dire que c'est très bien puisque vous appelez 2 jours avant de partir. Donc, vous avez largement le temps de faire tout ce qu'il faut. La première chose, c'est peut-être de réécouter ce qu'on a dû vous dire quand vous êtes parti en 2010 sur des conseils de protection contre les moustiques. La deuxième chose, c'est d'appeler votre médecin traitant. Temps d'aller le voir ou de passer dans un service de maladies infectieuses.
Mais effectivement, tout simplement, le médecin traitant peut
tout à fait prescrire. Donc, en fait, ce que vous avez à faire pour vous protéger, c'est un, vous protéger des piqûres de moustiques. Et on sait que le moustique qui transmet le palu, il pique à la tombée du jour. Donc, c'est vous couvrir, enfin, avoir des vêtements longs, bien couvrants, avoir un produit que vous allez mettre sur la peau qui va éloigner les moustiques, que vous pouvez aller acheter en pharmacie, ça s'achète sans ordonnance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut que vous preniez un traitement contre le palu. Vous partez combien de temps, en fait?
Alors, je pars pour un mois.
Oui, alors quand c'est des très courts séjours, on peut se contenter d'une prévention des piqûres. Mais pour un mois, c'est incontournable, il faut que vous preniez un traitement et ce traitement c'est au choix 3 médicaments qui n'ont pas les mêmes le même prix et les mêmes facilités de prise. Donc on va choisir en fonction de ce qui est le plus adapté à vous, hein.
C'est ça. Donc ce qui a été cité en tout cas dans la partie reportage message, deux médicaments ont été cités, la doxycycline pour la maman et la malarone pour l'enfant. Comment se fait le choix? C'est beaucoup une question de prix, en fait.
Alors, c'est avant une question de prix, une question de contre-indication éventuelle. Hein. Donc, la doxycycline, chez les enfants de moins de 7 ans, c'est pas possible. C'est pas possible non plus chez les femmes enceintes. Et c'est un traitement qui est très prescrit parce que c'est le moins cher.
Toléré. C'est combien pour un mois?
Pour un mois, bah écoutez, une boîte de 28 comprimés, c'est environ 10, entre 10 et 15 euros. Hein.
Voilà, alors que la malarone, c'est bien plus. Hein,
alors, la malarone, la boîte de 12 comprimés, c'est en moyenne 30 euros. Mmh. Donc, la doxycycline, c'est simple, c'est facile à prendre, mais ça a un inconvénient. C'est que on commence le jour du départ, on continue tous les jours, et il faut continuer un mois après le retour. Et puis, il faut pas sauter de prise, parce que c'est un médicament qui reste pas très longtemps dans le sang, donc quand on le prend pas, ça protège plus. Les autres médicaments sont plus chers, mais ont l'avantage, par exemple la malarone, c'est d'être pris tous les jours, avec un repas, ça c'est un inconvénient, seulement une semaine après le retour.
C'est ça, et pas un mois. Un médicament d'ailleurs qui est génériqué maintenant, la malarone.
Il est génériqué depuis plusieurs mois. Voilà. Et le générique...
Le prix a un peu baissé,
c'est de l'ordre de 23, 24 euros. Il faut savoir que pour la malarone et les autres médicaments, il y a un prix qui est fixé, mais qui est fixé hors les honoraires de dispensation qui sont... fixés par les officines. Hein. Donc, une boîte de malarone, ça peut coûter entre 30 et 60 euros.
Absolument. Hein. Vraiment faire attention dans l'endroit dans lequel on se fournit, parce que les prix peuvent varier. Troisième médicament dont vous nous
parlez. Alors, le troisième médicament, c'est l'Ariam, qui est facile à prendre parce que c'est une fois par semaine, mais qui a un inconvénient, principalement chez les gens qui en ont jamais pris, hein, c'est que ça peut donner des effets secondaires neuropsychiatriques, des vertiges le plus souvent, mais aussi quelquefois des épisodes psychiatriques plus graves. Donc il faut le prendre avant de partir, au moins 10 jours avant de partir, puis une fois par semaine, et puis au retour pendant 3 semaines.
Et de fait, vous le prescrivez moins, c'est plutôt les deux premiers, en fait, c'est ça?
Pour les gens qui l'ont déjà pris, c'est-à-dire qu'on a beaucoup dans notre consultation de migrants qui repartent très régulièrement. S'ils supportent, il n'y a aucune raison de ne pas leur prescrire. Mais sinon, c'est vrai que quand les gens partent... Vous partez en famille, monsieur?
Non, tout seul.
Voilà, parce que en fait, il y a aussi pour la question du prix la question de est-ce que
quand c'est un couple qui part avec cet enfant, ça augmente très nettement l'addition.
Donc après, il faut envisager ce qui est théoriquement idéal, mais ce qui est pratiquement faisable.
Alors il y a le palu, mais Abdoulaye, est-ce que vos vaccinations sont à jour?
Fièvre jaune. En fait, vous avez dû vérifier en 2010 si c'était à jour.
Oui, ça c'est à jour. Oui.
Ça c'est à jour parce que vous savez que le rappel c'est tous les 10 ans.
Oui.
Donc il faut que vous regardiez sur votre petit carnet jaune, puisque c'est le carnet international
de vaccination qui est jaune.
De vaccination internationale qu'on va vous demander à la frontière. Vous avez théoriquement la date de la dernière injection, puis au crayon la date de la prochaine.
Alors, et quels sont les autres vaccins que vous conseillez pour la Guinée?
Alors, les vaccins conseillés pour la Guinée, c'est un séjour un peu prolongé, que c'est pas seulement à la capitale, que c'est au village, c'est la typhoïde. Donc la typhoïde, le vaccin se fait tous les 3 ans. Et puis, chez des gens qui, chez des enfants ou des gens qui ont jamais quitté la France, c'est la vaccination contre l'hépatite A. Mais là, notre auditeur doit être immunisé et ça n'est pas indiqué.
Et diphtérie, tétanos, polio, on vérifie.
Ah, mais bien sûr. Les vaccinations du calendrier vaccinal, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, rougeole.
Coqueluche, rougeole, vous avez raison, absolument. Abdoulaye, est-ce qu'on vous a convaincu d'aller consulter vite votre médecin?
Ouais, c'est ce que je veux faire.
C'est important. Merci.
Bravo, merci.
Merci beaucoup de nous avoir appelés. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler de la vaccination et des préventions à prendre quand on part en voyage.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des pathologies liées au voyage et surtout aux moyens de les prévenir avec le professeur Sophie Matron, qui est responsable du Centre international de vaccination et de conseil aux voyageurs de l'hôpital Bichat Claude Bernard. Et si vous avez envie de participer, d'apporter un témoignage, de lui poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 et bien sûr les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Les informations, on était en ligne avec Abdoulaye qui nous appelle de région parisienne d'Evry, qui part en Guinée-Conakry jeudi et qui voulait savoir justement s'il fallait qu'il prenne des médicaments contre le paludisme. Vous aviez envie de lui rajouter quelque chose, professeur Matron. Dans le contexte actuel, c'est d'autant plus important qu'il prenne ces médicaments. Pourquoi ?
En fait, j'avais envie de rajouter que forcément, en rentrant de voyage, on peut être malade. Quand on rentre de Guinée-Conakry, qu'on a de la fièvre, compte tenu de l'épidémie d'Ebola, on peut être suspect d'avoir un Ebola. Alors qu'on peut tout simplement, si on n'a pas fait ce qu'il fallait, avoir un paludisme. Donc c'est une raison supplémentaire pour faire tout ce qu'il faut pour prévenir ce qui est prévenable, de sorte qu'on se retrouve pas, en fait, que notre ami, notre auditeur ne se retrouve pas avec de la fièvre au retour et une suspicion d'Ebola.
Voilà, et on a du coup, je vous lis le message de Présanif qui est au Bénin, qui dit « Je m'apprête à voyager quelques jours à Freetown en Sierra Leone, comment me protéger face à l'épidémie d'Ebola ?»
Alors là, les règles sont assez simples. C'est d'une part effectivement d'être protégé déjà contre tout le reste. Deuxièmement, appliquer des mesures, disons un peu universelles d'hygiène, qui sont le lavage des mains, qui sont ne pas côtoyer des patients et ne pas participer principalement à ce qui a été la cause de la diffusion d'Ebola, c'est-à-dire aux soins de personnes malades. Et encore plus aux funérailles de personnes décédées, puisqu'on sait très bien que Ebola est d'autant plus transmissible que la maladie est évoluée et que c'est parfaitement non transmissible quand il n'y a pas de symptômes.
Et du coup, c'est l'occasion de rappeler de l'importance de se laver les mains.
Absolument. Hein, absolument.
On a Michael qui nous appelle d'Abéché au Tchad. Michael, bonjour.
Oui, bonjour Claire.
On vous écoute.
D'accord, j'ai des questions qui concernent les maladies tropicales qui concernent une immunité incomplète. Et je prends un exemple le paludisme. Et je demande, lorsque quelqu'un quitte une région dans les palus pour aller passer ses vacances dans une zone où il n'y a pas le palud, comme la France par exemple, est-ce qu'il devient plus vulnérable au paludisme lorsqu'il est de retour?
C'est une question très intéressante, Michael, parce que effectivement, il y a une forme d'immunité qui se fait quand on vit dans des zones tropicales sur le paludisme, immunité d'ailleurs qui est pas complète, mais qu'on peut perdre quand on vient en France et quand on y passe un certain temps. Est-ce qu'on sait un peu au bout de combien de temps on perd cette immunité ?
Alors, d'abord, effectivement, il y a une immunité pour les gens qui vivent en Afrique. Cette immunité permet de ne pas avoir de forme grave de paludisme. C'est la première question. Elle n'existe évidemment pas chez les bébés. C'est pour ça que la plupart des décès en Afrique liés au paludisme, c'est chez les enfants. On perd cette immunité en vivant en France, et on la perd, on sait pas très bien, très exactement en combien de temps, mais on la perd en quelques mois, et à coup sûr, on la perd en quelques années. Du coup, on se retrouve, en étant africain qui a vécu au Tchad pendant toute sa vie, mais qui vit en France pour y travailler ou pour y passer quelques mois, on se retrouve comme un Français qui part et donc totalement vierge par rapport au paludisme, et avec donc un risque de paludisme grave.
C'est ça, et comme les gens qui n'ont jamais vécu en Afrique, c'est vraiment important de le préciser. Mais c'est pas en un mois ou deux de vacances en Europe
non.
qu'on perd son immunité, ça c'est important de le préciser. Donc merci Michael pour cette question. On a au téléphone le docteur Massamba Sassou Ndiop, qui est médecin urgentiste. Docteur Massamba Diop, bonjour.
Oui, bonjour Claire, bonjour professeur,
bonjour.
Chers auditeurs.
Vous êtes président de SOS Médecins à Dakar, vous êtes aussi médecin urgentiste au SAMU de l'Essonne en région parisienne. Quelles sont d'abord, parce que vous faites des rapatriements, quelles sont les principales causes de rapatriement?
En fait, on a plus de 50% des causes de rapatriement sont traumatologiques et finalement, vous avez des personnes qui viennent en vacances et qui se prennent pour un peu Superman ou Superwoman et qui finalement font des choses qui ne font pas d'habitude. Et donc avec des gros problèmes traumatologiques ensuite et puis.
Alors, attendez, je vous interromps, Massamba Diop. Des traumatismes, moi je pensais liés aux accidents de la circulation, mais donc pas simplement.
Et j'allais en venir en disant qu'il y avait aussi, bien sûr, la sécurité des routes. Mais il y a typiquement le nombre qu'on a fait, par exemple, de gens qui se sont mis à faire, je vous donne un exemple du surf ou du scooter des mers, des choses comme ça, et qui, en fait, ont eu des traumatismes graves, ou même du kitesurf, avec des chutes très graves, du quad aussi, des choses comme ça. Donc, il y a tout ce type d'activité que les gens ne font pas habituellement, et qui, du coup, se deviennent dangereuses.
Donc, ce sont les principales causes de rapatriement. Et quelles
sont... Donc la première cause traumatome, mais ensuite, il faut pas oublier qu'il y a les causes neurologiques, cardiovasculaires, les deuxièmes cardiovasculaires, troisième neurologique, ensuite pneumo, digestive, psychiatrique, et ne viennent en septième position tout ce qui est infectieux et parasitaire. Je parle bien des rapatriements, pas des consultations simples. Et du coup, on se retrouve aussi avec beaucoup de nationaux dans les causes infectieuses et parasitaires, les Africains qui vivent en Europe, qui ne prennent pas justement la prévention et qui se retrouvent à faire justement parce qu'ils sont pas ils n'ont pas la prévention et ils oublient de la faire pensant qu'ils sont protégés.
Ouais. Et quelles sont les principales causes de consultation de voyageurs à SOS Médecins à Dakar, donc sans la question du rapatriement, mais de simples consultations?
Oui, là par contre, on s'en doute, c'est essentiellement la gastro-entérite plutôt bactérienne en été, et c'est 50 à 60% d'un voyageur dans le sens nord-sud, on va l'avoir. Mais il ne faut pas oublier ce qui est intéressant, c'est que même dans le sens sud-nord, il y a près de 15 à 20% de gens qui font aussi des touristes. Ensuite, on a toute la pathologie ORL qui est très importante, hein, c'est-à-dire avec les gens qui vont sous climatisation, les problèmes d'allergie, ensuite du coup avec des bronchites asthmatiformes, ce sont les autres principales pathologies de façon très nette. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est comme vous l'avez vu, on a les pathologies qui sont préexistantes, qui sont les deuxièmes causes de rapatriement, et donc les gens ils doivent bien prendre le traitement habituel. L'avoir en plus dans l'avion pour ce qui est du traitement de la journée, par exemple, et faire attention, parce que quelquefois, ils se disent qu'ils vont le trouver dans les pays, dans certains pays, il y a des faux médicaments, et du coup, s'ils partent pendant, par exemple, 10, 15, 20 jours, ils vont se retrouver, s'ils pensent acheter dans le pays, avec des médicaments qui n'ont peut-être pas la même efficacité, donc il faut faire très attention.
Très important de partir, effectivement, avec sa trousse de médicaments habituels, professeur Matron.
Non seulement sa trousse de médicaments habituels, ça c'est vraiment important, mais une trousse de secours, et je voulais revenir à la question de l'auditeur précédent, il faut, je pense, vraiment acheter les médicaments antipaludiques en France, parce qu'il faut vraiment alerter les gens sur le nombre de médicaments non adaptés qui sont vendus un peu de façon sauvage dans
attention,
les villes africaines et qui contiennent pas de médicaments actifs.
Dans les voyageurs, professeur Massamba Diop, qui sont ceux qui sont malades? En fait, ma question, est-ce que vous avez autant de migrants que de vacanciers classiques? Voilà, quelle est la répartition?
Avant, on avait essentiellement de vacanciers classiques et on est en train d'avoir de plus en plus des migrants, puisqu'on a une population importante maintenant des personnes d'origine africaine qui vivent en Europe et qui viennent. Et c'est très très net actuellement, plus de la moitié des dossiers concernent des Africains vivant en France et qui sont venus en vacances. Donc c'est vraiment, ça se voit de façon très claire. Moins au moment de Noël, Nouvel An ou vacances de février, mais en vacances d'été, pendant les vacances d'été, c'est extrêmement net. Et vraiment, c'est clair.
Quels sont les conseils que vous avez envie de donner? Alors, je dirais là, dans l'autre sens, pour les Sénégalais qui partiraient en vacances en Europe ou aux États-Unis.
Alors, dans l'autre sens, déjà, les Sénégalais ne consultent pas, ou les Africains en général, je crois, quand je discute avec mes collègues des autres pays, ne consultent quasiment jamais dans l'autre sens. Il y a une chose, malheureusement, maintenant, pour avoir un visa, en tout cas au niveau Schengen, il faut avoir une assurance. Donc ça, c'est très important, au cas où il y a une pathologie qui se déclenche en Europe. Mais aussi, souvent, que ce soit pour les Européens ou Africains, quand ils partent d'ici, il ne faut pas oublier qu'effectivement, pour moi, ils doivent avoir non seulement les coordonnées d'un centre de maladies infectieuses, de l'endroit où ils vont aller, surtout dans le cas où il ferait une fièvre, dans la mesure où si jamais c'est un palu, très tôt, il n'y a aucun problème, mais très tardivement, et c'est là où on a quelquefois des personnes qui se retrouvent dans des états graves en Europe, parce qu'ils ont attendu. D'autre part, je conseillerais de prendre aussi éventuellement un traitement d'attente, antipaludéen, donc à l'acheter ici, parce que on a eu le cas, par exemple, de personnes qui vont dans des zones où ils n'ont pas accès aux médecins facilement. et finalement ils font des poussées de fièvre, et là ils pourraient très bien par téléphone joindre leur médecin traitant et donner les symptômes qui pourraient permettre au médecin de dire oui, là vous pouvez prendre ce traitement d'attente parce que vous n'avez pas accès au test et pour pouvoir vérifier si ça a valu, et là il faut vous traiter. Et je pense que ça c'est un élément aussi très important.
Professeur Matron, une réaction là-dessus sur l'importance quand on vient de zones impaludées, que ce soit effectivement dans le sens par exemple de Sénégalais qui vont en vacances en France ou de vacanciers qui viennent de zones tropicales où il y a un palud, très important de consulter vite en cas de fièvre.
Absolument, je ne peux que confirmer tout ce qui vient d'être dit. Autant une fièvre due à un palud pris au tout début des symptômes, ça peut se traiter en ambulatoire à la maison de façon simple et en 3-4 jours. Autant si on attend, on a le risque d'avoir un paludisme grave. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas toujours très facile de consulter, mais en général, les hôpitaux français et les services dans lesquels il y a des centres de vaccination internationale ont aussi des consultations en urgence pour toute pathologie survenant au retour. Où les gens peuvent consulter sans problème.
Une dernière question, docteur Massamba-Dior. Vous avez envie de nous donner aussi quelques conseils pour le voyage en avion?
Oui, ce qu'on appelle le syndrome de la classe économique, qui en fait est aussi pour les autres classes, c'est lié au fait qu'on est en altitude, les gens ont tendance par exemple à prendre un somnifère, certains vont boire de l'alcool, vont rester allongés très longtemps, vont se déshydrater en altitude, et du coup vont au lever faire une embolie pulmonaire. Et c'est pour ça qu'en fait il est très important en vol, surtout quand le vol est de plus de 6 heures, de bouger, de faire des mouvements avec les pieds, de les relever pour contracter les vaisseaux au niveau les veines au niveau des membres inférieurs, de faire attention de ne pas prendre de somnifères, ou si on en prend, c'est un problème justement comme cela, et éventuellement quand on est à risque, de prendre un anticoagulant, de se faire une piqûre et de mettre des bas à risque, qui est l'autre élément très utile pour éviter ce syndrome qui est de toute classe en fait.
Merci beaucoup docteur Massamba Diop, je rappelle que vous êtes président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des pathologies liées au voyage et aux moyens de prévention. On a Mariama qui nous appelle du Sénégal. Mariama, bonjour.
Bonjour, ça va?
On vous écoute.
Ma question est la suivante. Est-ce que toutes les pathologies du voyage existent-ils du vaccin? Si oui, comment les femmes enceintes qui voyagent vont les apprendre?
Alors, professeur Matron, il n'y a pas un vaccin pour toutes les pathologies, c'est bien ça le problème.
Mais ça dépend ce qu'on entend par vaccin, c'est-à-dire bon, il n'y a pas un vaccin au sens un produit pour toutes les pathologies du voyage, ça c'est clair. Mais en fait, il y a une prévention possible pour la plupart des pathologies. Donc, en termes de vaccins, on a les vaccins contre la fièvre jaune, contre la typhoïde, contre les hépatites, contre la typhoïde et d'autres maladies en fonction de la destination. Et puis on a aussi un vaccin qui s'appelle la prévention, le conseil, et c'est des principes très très élémentaires d'hygiène des mains, de se laver les mains très souvent, en particulier quand on va aux toilettes. Deuxièmement, de boire de l'eau plutôt minérale. Troisièmement, faire attention à un certain nombre de choses qui sont à l'origine de pathologies bien définies. Alors pour les femmes enceintes, bah, tous ces conseils-là, ils sont valables. Et en termes de produits vaccinaux, en fait, les vaccins vivants sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Après, il faut voir si les voyages sont évitables, les voyages dans des pays où cette vaccination devrait être faite sont évitables ou pas pendant la grossesse. S'ils ne le sont pas, c'est des décisions qui se prennent au cas par cas.
C'est ça. Et les vaccins vivants, c'est-à-dire, du coup, quels sont les vaccins?
La fièvre jaune.
La fièvre jaune, c'est un vaccin vivant.
Donc la fièvre jaune n'est pas conseillée chez la femme enceinte. Maintenant, quand c'est quelqu'un qui doit partir, non pas pour un voyage d'agrément, de tourisme, mais où elle est obligée de partir, et qu'il y a une épidémie et qu'on le sait, ça se discute au cas par cas.
Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. On a parlé à chaque fois de la consultation avant de partir en voyage. Je pense que vous avez convaincu de l'importance de cette consultation. Il y a une autre consultation que vous trouvez assez importante et dont on parle moins, c'est celle du retour de voyage.
Alors, c'est absolument vrai. Et donc, quand on donne les conseils avant voyage, parmi ces conseils qu'on n'a pas tous listés, mais dont on a dit l'essentiel, il y a le conseil de consulter dès qu'il y a un problème de santé au retour. C'est vraiment important. Il faut savoir que ces consultations sont accessibles et qu'elles permettent d'une part de faire un examen clinique, et j'insiste un peu là-dessus parce que les diagnostics par téléphone, c'est pas toujours suffisant, et d'autre part de faire un bilan biologique qui permet de savoir en quelques heures s'il y a un palu ou s'il y en a pas.
C'est ça. Quelles sont les principales causes dans ces cas-là de consultation de gens qui ont un problème? C'est quoi principalement? La fièvre?
La fièvre. Oui. C'est essentiellement la fièvre. Il y a une très jolie étude d'un réseau européen justement de consultation du retour qui liste les principales causes, et les principales causes, c'est la diarrhée, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les atteintes pulmonaires, et puis ce sont les maladies fébriles, et dans les maladies fébriles, pour l'Afrique subsaharienne, la première cause de maladies fébriles, et puis celle dont il faut vraiment s'occuper, c'est le paludisme.
Et alors, comment ça se passe? Parce que vous avez vu le voyageur avant, vous lui avez prescrit justement un antipaludien en préventif. Bon, il n'a pas forcément très très bien suivi son traitement. Il revient vous voir après parce qu'il a de la fièvre. Il n'a pas forcément envie de revenir vous voir parce qu'il se dit « mais je vais me faire engueuler par mon médecin, j'ai pas bien suivi mon traitement ».
Alors, vraiment ce qu'on dit toujours, c'est « on va pas vous engueuler ». Et puis, on a un petit peu l'expérience quand même. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'adhésion, l'observance au traitement antipaludéen, elle est pas idéale. Que les gens qui arrivent avec de la fièvre et un palu disent pour 70% qu'ils ont bien pris leur prophylaxie, et puis que quand on regarde dans le sang, il n'y en a que 30% de ceux qui ont le palu qui avaient bien pris. On va pas les engueuler, parce que le principal, c'est de les prendre en charge. Et puis, quelquefois ils ont oublié, mais quelquefois ils ont vomi. Et donc c'est comme s'ils l'avaient pas pris. Quelquefois ils ont eu la diarrhée, c'est comme s'ils l'avaient pas pris. Donc le principal, c'est vraiment qu'ils sachent que le palu est une urgence vitale, et que on est là, et que on les engueulera après qu'ils soient rétablis, et pas méchamment.
Et pas méchamment. C'est important. Non, mais parce qu'autrement ils ont peur et ils culpabilisent. On a au téléphone Marion Schaeffer qui nous appelle de France. Elle est présidente d'Excision Parlons-en. Marion Schaeffer, bonjour.
Bonjour Claire.
Et avant les départs en vacances, vous vouliez nous alerter sur cette question. On vous écoute.
Oui, tout à fait, parce que l'été, c'est les grandes vacances et ça représente vraiment un moment crucial pour les associations de lutte contre l'excision. Faut vraiment renforcer la vigilance parce que chaque année, des milliers de petites filles adolescentes qui sont issues des migrations et qui vivent en France ou ailleurs en Europe retournent dans les pays d'origine de leurs parents pour les vacances et en fait peuvent y subir une mutilation sexuelle féminine. Donc nous, on voulait vraiment alerter aujourd'hui et rappeler deux choses très très rapidement. La première, c'est qu'il existe des lois qui protègent ces enfants. Toutes les enfants qui vivent en France, quelle que soit leur nationalité, et même si elles sont excisées à l'étranger, vont être protégées. Et les auteurs de mutilations, même commises à l'étranger, pas un étranger, peuvent être poursuivis en France. Donc il y a des peines prévues par le code pénal de 10 à 20 ans d'emprisonnement, jusqu'à 150 000 euros d'amende également. Et puis on peut même punir aujourd'hui et depuis 2013 les personnes qui incitent à l'excision.
Donc ça, c'est rappeler la loi, le premier point.
Voilà, premier point, rappeler la loi, et deuxième point, parler de prévention et dire aux femmes et aux hommes qui nous écoutent que si vous êtes inquiet ou inquiète pour vous-même, pour une amie, pour une cousine, pour quelqu'un de votre entourage, il y a des numéros que vous pouvez appeler avant que les petites filles et les adolescentes partent en vacances. Vous pouvez joindre à tout moment et gratuitement en France le 119, c'est Allô Enfance en Danger. le 3919, Femmes Violences Information, et puis bien sûr, contacter la Fédération Nationale GAN ou Excision Parlons-en. Voilà, puis j'espère qu'on pourra mettre sur le
c'est ce qu'on va faire, on va le mettre exactement. Merci beaucoup, Marion Schaeffer, effectivement, de nous avoir alerté là-dessus. On va mettre sur notre site internet toutes ces coordonnées. Professeur Matron, dans votre service, il y a justement une affiche qui sensibilise aussi à ça.
Oui, parce que on considère effectivement que c'est un problème grave, fréquent et évitable. Les consultations de conseil et de vaccination voyageurs durent 15 minutes environ. Donc, il est clair que, vu la masse d'informations qu'il faut donner pour la prévention individuelle, on n'a pas le temps de parler de l'excision. Il n'empêche que c'est un problème grave, et donc on a une affiche qui rappelle les principaux messages que Marion Schaeffer vient de transmettre.
Donc c'était important de le rappeler. Juste une dernière question, on a eu énormément de questions d'auditeurs sur le problème des vomissements, du mal des transports. On ne vous alerte pas forcément là-dessus dans une consultation.
Je suis un peu étonnée de la quantité de questions sur le mal des transports, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui revient souvent. Ceci dit, ça doit être un problème puisque les gens s'expriment. En fait, ça touche plutôt les enfants, les adolescents. C'est souvent associé à des migraines. C'est souvent lié à l'angoisse. Je pense que ça peut être prévenu d'une part par des explications, deuxièmement qui baissent un peu l'anxiété, deuxièmement éventuellement par des médicaments. Mais ces médicaments peuvent avoir des contre-indications et donc ça passe par une consultation médicale.
C'est ça, absolument. Pas d'automédication là-dessus. Il faut consulter. Dernière question. Vous êtes débordé là avant les départs en vacances.
On est débordé. On est très occupé. On n'est pas du tout débordé parce qu'on est organisé comme tous les ans. Donc il y a vraiment un pic d'activité dans les centres de vaccination de juillet à septembre. Mais c'est tous les ans la même chose. Donc on est organisé en étant un peu plus présent. Et il y a des pics effectivement de consultations dans l'année qui sont liés au voyage en vacances, qui sont liés aussi un peu plus tard dans l'année au pèlerinage à la Mecque, puisqu'il y a une vaccination contre le méningocoque qui est obligatoire. Mais bon, on est parfaitement organisé et tout à fait prêt à recevoir tous les gens qui viendront.
Et c'est
consulter.
Des consultations sur rendez-vous, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Merci beaucoup, professeur Matron. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre international de vaccination et de conseil aux voyageurs de l'hôpital Bichat Claude Bernard. Et on va terminer avec la chronique nutrition de Stéphane Besançon.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour Stéphane Besançon.
Bonjour Claire.
Vous êtes directeur de santé diabète et toutes les semaines vous nous donnez des bons conseils de nutrition. Cette semaine c'est la dernière chronique de la saison, vous reprendrez fin août. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands conseils que vous avez prodigués aux auditeurs pour qu'ils puissent adopter une alimentation plus équilibrée?
Alors Claire, cette année, enfin ces premiers mois de chronique, on a 5 grands principes que les auditeurs peuvent retenir pour adopter une alimentation plus équilibrée. Alors tout d'abord, on a vu qu'il fallait adopter un bon rythme alimentaire avec 3 repas principaux dans la journée. Limiter au maximum le grignotage entre ces 3 repas. Réduire la consommation de graisse, de sel et de sucre. Plusieurs chroniques ont porté là-dessus. En parallèle, augmenter fortement la consommation de fruits et de légumes. Et enfin, consommer principalement de l'eau comme boisson.
Et manger équilibré, ça ne suffit pas, il faut aussi bouger. Vous nous avez recommandé l'activité physique.
Effectivement, les auditeurs, en plus de conseils sur l'alimentation, doivent retenir qu'il faut une pratique de 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Alors, quand on dit activité physique modérée, c'est la marche à pied, par exemple.
Et alors, en plus, vous avez un autre conseil à nous donner, c'est que pour manger plus équilibré, il faut apprendre à écouter son corps, c'est-à-dire...
Alors, ça, c'est un concept très intéressant. Apprendre à écouter son corps, c'est savoir reconnaître l'effet des aliments et de l'hydratation sur notre énergie, nos pensées et aussi nos humeurs. Ceci va permettre de reconnaître pourquoi nous mangeons. C'est une question centrale. Est-ce qu'on mange par faim, par ennui ou par stress? Et plus on va reconnaître notre besoin à combler une faim réelle, plus on pourra trouver des moyens de diversifier son alimentation pour apaiser cette faim.
Et comment arriver à identifier ce besoin?
Alors, c'est toute la complication, c'est d'arriver à observer ces sensations. Tout à l'heure, dans les premières parties de la chronique, on était sur la théorie, mais on est vraiment sur la sensation, sans chercher à les comprendre ou trouver une solution dans un premier temps. Donc, pour ceci, on a deux petits exercices qu'on peut conseiller à nos auditeurs. Le premier, c'est avant de commencer à manger, porter son attention sur sa respiration pour observer les sensations qui, à l'intérieur du corps, dans le ventre, est reliée ce qu'est le besoin de l'organisme. Est-ce que notre ventre nous dit qu'il veut combler une petite faim, une faim moyenne, une très grande faim, ou bien est-ce qu'on se rend compte qu'on n'a pas vraiment faim, mais qu'on a un stress à combler? Et le deuxième exercice, cette fois-ci, c'est pendant qu'on mange, de porter son attention sur l'effet de l'aliment ou de la boisson sur nos sens. Alors l'ouïe, l'odeur, la saveur, toutes les sensations qu'on peut ressentir. Ceci va permettre aussi d'analyser si on rassasie un goût, c'est-à-dire est-ce que l'aliment nous plaît réellement, ou si on rassasie une faim, ou de nouveau si on mange de manière compulsive pour apaiser un stress.
Et pourquoi différenciez-vous justement le goût de la faim ?
Alors ça, c'est central. C'est extrêmement central. Le goût pour un aliment, c'est l'envie de cet aliment. Si on se focalise sur ce goût, on va l'avaler par plaisir, puis on reprend, puis l'avaler, puis on reprend. Et même quand on le voit, tout le monde a déjà fait cette expérience, il nous donne envie. Et on ne porte plus attention sur sa faim réelle, mais on porte l'attention sur l'aliment, le plaisir de le consommer. Par contre, si on se focalise sur sa faim réelle, on va manger jusqu'à la perte de celle-ci, et on va s'arrêter naturellement sans essai. Et pour illustrer ceci, tous nos auditeurs ont déjà fait cette expérience personnelle, que si on nous présente un plat qu'on n'aime pas beaucoup, on va manger juste ce qu'il faut pour rassasier notre faim réelle et on va s'arrêter. Par contre, si maintenant on nous présente un plat vraiment très gourmand qu'on aime énormément, on va manger des fois une fois et demie à plus de ce qu'on aurait dû manger parce qu'on a la notion de plaisir qui rentre en jeu.
Merci beaucoup et comme d'habitude, Stéphane Besançon, on retrouve cette chronique sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Bonnes vacances Stéphane. Et on se retrouve à la fin du mois d'août. Demain, on parlera des difficultés d'accès aux soins en Grèce depuis la crise économique et les mesures d'austérité. C'est un reportage d'Igor Strauss. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.